Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Ninartri. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Parler pour que les tout-petits écoutent de Joanna Faber et Julie King est un guide pratique de parentalité et de communication. Destiné surtout aux adultes qui vivent ou travaillent avec des enfants de 2 à 7 ans. Elle ouvrage adapte pour la petite enfance. Mais l'esprit et les habiletés relationnelles popularisées par la série Faber et Masdish en cherchant à réduire les affrontements quotidiens sans recourir en priorité aux menaces, aux cris ou aux punitions. Elle objectif est d'où aider elle adulte à obtenir davantage de coopération tout en respectant le développement émotionnel et les limites réelles des jeunes enfants. La démarche repose sur des outils concrets, illustrés par des situations familières, avec un style très orienté terrain. Les auteurs insistent sur la reconnaissance des émotions, la formulation de demandes plus efficaces, la mise en place de limites claires et la recherche de solutions praticables. Le livre se présente comme un soutien pour traverser plaintes, oppositions, disputes et crises, en visant une relation plus apaisée et une autonomie progressive de l'enfant. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, accueillir les émotions pour désamorcer les crises. Une idée centrale du livre est que, chez les tout-petits, la tempête émotionnelle précède souvent toute possibilité de coopération. Au lieu de corriger immédiatement le comportement, l'adulte est invité à reconnaître ce que l'enfant vit. Frustration, colère, déception, fatigue, peur, sans minimiser ni ridiculiser. Cette reconnaissance ne signifie pas céder, mais créer un climat où un enfant se sent compris, ce qui diminue l'escalade. Les auteurs montrent que des formulations simples, qui mettent des mots sur l'expérience de l'enfant, peuvent aider celui-ci à se calmer et à se réorienter. Le livre encourage aussi les parents à accepter leurs propres émotions et à les exprimer de façon responsable, par exemple en décrivant ce qui ne va pas et ce dont on a besoin, plutôt que d'auto-attaquer l'enfant. En pratique, cela soutient un double objectif, protéger la relation et rendre possible l'apprentissage. Cette approche se veut réaliste pour le quotidien, quand un enfant pleure pour une raison jugée minime par l'adulte ou s'effondre lors d'une transition. Elle rappelle que la maturité émotionnelle se construit et que l'adulte sert de guide et de régulateur. Deuxièmement, parler de manière à susciter la coopération au quotidien. Le livre propose de remplacer les injonctions vagues ou négatives par des messages plus clairs, plus concrets et plus faciles à suivre pour un enfant de 2 à 7 ans. Une piste fréquemment mise en avant consiste à dire ce que l'enfant peut faire plutôt que ce qu'il ne doit pas faire, afin de donner une direction immédiatement applicable. Les auteurs insistent sur l'importance de formuler des demandes adaptées au niveau de développement, avec des consignes courtes, une étape à la fois, et une attente réaliste de la capacité d'haute attention. La coopération est aussi favorisée quand l'adulte prépare le terrain, annonce les transitions, propose des choix limités quand c'est possible, et décrit le problème de façon neutre. Le lecteur est encouragé à observer comment le ton, le moment et la formulation influencent la réponse de l'enfant. À l'intention, elle n'est pas de manipuler, mais de rendre la communication plus efficace et moins conflictuelle. En toile de fond, le livre défend à l'idée qu'une grande partie des luttes de pouvoir provient d'une communication mal ajustée au jeune âge. En améliorant la manière de demander, on réduit les occasions de confrontation et on augmente les chances d'un oui durable. Troisièmement, poser des limites fermes et bienveillantes sans punition punitive. Le guide se situe dans une logique de limites claires, mais cherche à éviter que la discipline repose principalement sur la peur ou l'humiliation. Les auteurs invitent à distinguer l'émotion, toujours acceptable, du comportement, parfois inacceptable. L'adulte peut valider ce que l'enfant ressent tout en maintenant une règle de sécurité ou de respect. Le livre met l'accent sur des alternatives à la punition punitive, en s'orientant vers des réponses plus éducatives liées à la situation et compréhensibles pour l'enfant. Il agit de préserver l'autorité parentale sans entrer dans une surenchère de menaces ou de marchandage. Une part importante consiste aussi à prévenir, en aménageant l'environnement et en anticipant les moments à risque, plutôt que de compter uniquement sur la réaction après coup. Les auteurs rappellent que la cohérence et la répétition comptent davantage que la sévérité, surtout avec des enfants jeunes qui testent et apprennent. Cette approche vise à construire l'auto, contrôle progressivement, en s'appuyant sur l'accompagnement de l'adulte. Elle peut être utile quand un enfant refuse de s'habiller, frappe, jette des objets ou s'oppose systématiquement, en aidant le parent à rester ferme sans perdre le lien relationnel. Quatrièmement, encourager l'autonomie et la résolution de problèmes, au-delà de la gestion de crise, le livre cherche à outiller l'adulte pour développer l'autonomie de l'enfant, en évitant de faire à sa place ce qu'il peut apprendre à faire. Les auteurs proposent une posture d'accompagnement où l'adulte observe les compétences émergentes et ajuste son aide ni trop ni trop peu. L'enfant est encouragé à participer, à prendre des petites responsabilités adaptées à son âge et à s'entraîner dans des routines, rangements, habillage, repas, départ. Cette orientation vers l'autonomie s'appuie sur une communication qui valorise l'effort, la progression et les initiatives, plutôt que l'étiquetage de l'enfant. Le livre met aussi en avant des démarches de résolution de problèmes en famille, qui consistent à définir le besoin de chacun et à chercher des solutions praticables. Avec de jeunes enfants, ces solutions restent simples et encadrées, mais elles peuvent diminuer les conflits répétitifs, notamment sur les transitions, le partage ou les écrans. L'intérêt est double, réduire la charge mentale du parent et donner à l'enfant des repères internes. En renforçant les capacités à essayer, à réparer et à recommencer, l'adulte prépare le terrain pour une coopération plus stable à long terme, en dernier lieu. Adapter les outils aux profils variés et aux réalités familiales, le livre est souvent présenté comme un manuel de secours. Mais il rappelle implicitement que les outils demandent de la pratique et de ajustement. Les auteurs insistent sur la répétition et la persévérance, car un changement de communication ne produit pas des effets constants du jour au lendemain. L'adulte est invité à s'observer, à repérer ses automatismes et à tester progressivement de nouvelles formulations. Le guide reconnaît aussi que certaines familles vivent des défis supplémentaires, par exemple une sensibilité sensorielle marquée ou d'autres besoins particuliers, et qu'il faut alors adapter le cadre, le rythme et les attentes. De manière plus générale, le livre s'adresse aussi à des contextes où plusieurs adultes interviennent, parents, enseignants, professionnels de la petite enfance, fratrie, ce qui implique une certaine cohérence et des accords minimaux sur les règles. Il met en lumière le rôle de état interne à l'adulte, fatigue, stress, surcharge, et encourage à prendre soin de ses ressources pour rester capable d'appliquer les outils. Cette dimension rend la démarche plus réaliste, car elle relie la qualité de communication à la disponibilité émotionnelle. L'objectif n'est pas la perfection, mais une amélioration progressive de la relation et du quotidien. En conclusion, parler pour que les tout-petits écoutent s'adresse, de abord aux parents de enfants de 2 à 7 ans qui se sentent épuisés par les crises, les refus et les conflits récurrents. Mais il peut aussi intéresser les enseignants, éducateurs et professionnels de la petite enfance qui recherchent des formulations simples pour obtenir de la coopération sans escalade. Le bénéfice principal est pragmatique. Disposer d'un ensemble d'outils immédiatement testables pour parler autrement, écouter autrement et poser des limites avec davantage de calme sur le plan relationnel. Le livre aide à préserver le lien affectif tout en maintenant l'exigence éducative. En rappelant que les comportements difficiles cachent souvent une émotion ou un besoin que l'enfant ne sait pas encore gérer. Il se distingue dans sa catégorie par son orientation très terrain, appuyée sur de nombreuses situations du quotidien et par son adaptation explicite au tout petit, dont les capacités de langage, d'attention et de régulation diffèrent nettement de celles des plus grands, comparées à des ouvrages plus théoriques sur la parentalité bienveillante. Il propose une boîte à outils centrée sur la communication, avec une logique de répétition et d'auto-entraînement. Pour ceux qui veulent moins crier, moins punir et obtenir plus de coopération tout en restant ferme, ce guide peut servir de référence à garder sous la main. Si vous souhaitez soutenir Johanna Faber, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. Au bientôt !